chapitre 20 et au verset 1er. Et nous allons lire, à l'occasion de ce dimanche de Pâques, ce texte qui nous parle de la résurrection. En réalité, dans ce texte que nous allons lire, Jésus est déjà ressuscité. Et les premiers témoins vont arriver après ce qui s'est passé. Et j'ai intitulé le titre de cette méditation « Regard sur la résurrection ». Des regards sur la résurrection. Et vous allez voir qu'au travers de ce texte, il y a un mot conjugué de différentes manières qui va revenir, un verbe qui va revenir à 7 reprises. Ce n'est pas le hasard. 7 reprises. Et ce mot, c'est le mot « voir ». Alors, je vous ai donné la réponse. J'allais vous demander à la fin combien de fois vous l'avez vu, mais je vous ai donné la réponse. Bon, enfin, il va falloir que vous le repériez, d'accord ? On est ensemble ? Ah là là, je spoil, c'est ça. Voilà. Allez, Jean chapitre 20 et le verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit, voyez, que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, l'apôtre Jean, c'est aussi l'auteur de cet évangile. Et il leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, dans ce texte de l'Écriture, nous voyons ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que Jésus est ressuscité, les premiers témoins de cette résurrection. Et vous voyez que les premiers regards n'ont pas été suffisants pour comprendre tout ce qui s'est passé. Remarquez, je vous l'ai dit tout à l'heure, à cette reprise, le verbe « voir » est employé. Marie voit la pierre qui a été roulée. Ensuite, ces gens qui voient les bandelettes qui sont à terre, mais ils le voient de l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur du sépulcre. Au verset 6, cette fois-ci, Pierre, lui, entre dans le sépulcre et voit non seulement les bandelettes, mais le linge plié aussi qui est à part. Et puis, Jean entre lui aussi, et puis il voit tout ça, et ensemble, il croit que Jésus, eh bien, est ressuscité. Et puis, le verset 12 nous dit qu'à son tour, Marie va voir deux anges. Elle va voir Jésus, elle va le prendre pour un jardinier. Et puis après cette rencontre où Jésus l'appelle par son nom, elle déclara « J'ai vu le Seigneur, alléluia, j'ai vu le Seigneur ». C'est-à-dire, eh bien, que nous comprenons que ces différents regards nous montrent qu'en fonction de la compréhension que nous avons de l'œuvre de Jésus, cela aura un impact dans notre vie ou pas. Si nous réalisons l'œuvre qui a été manifestée ici dans ce jardin, eh bien, auprès eh bien, de Golgotha, eh bien, à l'endroit où Jésus a été crucifié, eh bien, si nous comprenons ce qui s'est passé là, eh bien, de tout notre cœur, il y aura eh bien, un impact formidable qui transformera notre vie. Ou alors, si nous avons un regard superficiel, ah ben, ils ont pris le corps de Jésus. J'ai vu de loin, et en plus, on ne sait pas qui, voyez. C'est de la rumeur, c'est un peu de la fake news, voilà. S'il n'y a pas une révélation, on peut croire que oui, c'est vrai, il s'est passé quelque chose, et puis on rentre chez soi. Oui, dans cette réunion, dans ce culte, il y a quelque chose quand même, hein, ouais, voilà. Oui, bah, voilà, c'est spirituel quand même, hein, il y a quelque chose. Et puis on peut aller un peu plus loin. J'ai vu le Seigneur. C'est-à-dire que plus qu'un miracle, la résurrection nous montre que Dieu a vaincu la mort. La victoire sur la mort est entrée dans le monde des hommes. Alléluia. C'est-à-dire que là où il n'y avait aucune espérance, aucune assurance par rapport à l'éternité, par rapport au poids de nos péchés qui engendrait la mort, cette malédiction, il y a quelque chose qui vient tout percuter comme un tsunami, un tremblement de terre. Jésus est ressuscité d'entre les morts pour ne jamais remourir. Alléluia, il est vivant éternellement. Amen. En préparant ces moments, j'ai relu ce texte de l'Écriture que je voudrais partager avec vous dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. La Bible nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu » qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Alléluia. C'est quelque chose de bouleversant. Alors que tant d'hommes et de femmes cherchent à faire la paix avec Dieu au travers eh bien, de toutes sortes d'efforts, nous voyons que Dieu lui-même a tout accompli pour que nous ayons la paix. Il nous en donne cette assurance. Tu n'as plus à craindre le jugement de la mort parce que Jésus en a triomphé. Alléluia. Amen. Et il a subi pour toi. Amen. Mais comprends que tout cela eh bien, a besoin d'être compris, même par rapport, et nous allons le voir ensemble, par des croyants. Parce que je voudrais vous rappeler que dans le cœur de Pierre, de Jean, dans le cœur de Marie, ça ne faisait aucun doute. Jésus était le Christ. Pierre avait besoin de comprendre tout ce que ça veut dire, mais dans son cœur, il avait bien compris. Et il l'a dit à plusieurs reprises, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cependant, il n'avait pas compris, cela est dit, eh bien, ce que signifiait la résurrection. Je voudrais peut-être poser la question à quelqu'un au milieu de nous, pour un frère, pour une sœur. Est-ce que tu as compris tout ce que cette victoire implique pour ta vie personnelle, mais implique pour ta famille, implique pour tes enfants, implique pour ton église, alléluia, amen, et implique eh bien, pour ton témoignage personnel eh bien, dans ce monde. Et nous allons le voir ensemble et peut-être demandant au Seigneur intérieurement, comme Paul pouvait le dire, mais Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Parce que si eux, ils ont vu réellement, physiquement, et qu'ils ont mis du temps à comprendre, moi aussi j'ai besoin, Seigneur, de bien voir. Alléluia. Je ne veux pas compter simplement sur mon intelligence, mais je veux compter, Seigneur, sur l'action de ton Saint-Esprit, sur une action divine dans mon cœur. Vous savez, Jésus dira, eh bien, de tout faire afin d'obtenir, de lui demander un collyre, afin qu'il loigne nos yeux, afin que nous puissions voir. La Bible nous dit que notre œil est capable est la lampe du corps, c'est-à-dire, ça capte la lumière, ça nous permet de nous repérer. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, il y a eh bien, ton âme qui a besoin d'être éclairée, mon âme, alléluia, sur ce que Jésus a fait. Amen, alléluia, amen. Alors, voilà, en parlant de ces regards, eh bien, je me suis, j'ai décomposé ça en quatre points. Voir l'œuvre de Jésus, voir mais sans Jésus, voir en cherchant Jésus, et voir Jésus le Seigneur. Voir Jésus le Seigneur. Et le premier point, c'est voir l'œuvre de Jésus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que cette scène, la scène de la résurrection, elle est très documentée. On a l'impression que le Seigneur nous laisse faire une enquête. Je sais pas, vous aimez, peut-être ça vous arrive de dire, mais il y a quelques années en arrière, enfin quelques années, de temps en temps ça m'arrive, il y a longtemps que ça m'est pas arrivé, mais enfin, voilà, j'aime bien quand j'ai le temps, hein, on n'a pas trop le temps, mais quand j'ai le temps, voilà, j'aime bien regarder une enquête policière. Vous aimez les enquêtes policières? Voilà, et moi il y en a un, moi il y en a un que j'aime bien, c'est Columbo. Bon voilà, je vous dis, alors c'est pas violent, voilà, moi, j'aime bien Columbo. Ce qui est bien dans Columbo, c'est que dès le début, on sait qui. Donc déjà, on est sorti d'affaire. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà. Mais là, il y a une enquête. Il y a une enquête. Là, il y a une enquête qui est là. Il y a une enquête. Et vous avez remarqué, il y a trois points là. La pierre est roulée, les bandelettes sont à terre, le linge est plié, et le Seigneur laisse ça. Et pour moi, c'est volontaire. Jésus laisse au travers de ces éléments. Nous laisse le soin de conclure ce que ça veut dire. Pourquoi, Seigneur, tu as laissé ces choses en place? Vous voyez, il aurait pu traverser le sépulcre. Il l'a fait déjà, le Seigneur, passer, apparaître au milieu d'une pièce. Il aurait pu faire la même chose, voilà, sans que la pierre soit roulée. Pourquoi ça s'est passé comme ça, Seigneur? Quel est le sens? Bien, tout d'abord, mes frères et sœurs, le fait que eh bien, le tombeau soit ouvert, c'est un signal fort, mais la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. L'apôtre Pierre dira dans Actes 2, au chapitre 20, au chapitre 2, au verset 24, il était impossible qu'il fût retenu par elle. C'était pas possible, mais que la mort, eh bien, ait l'avantage sur Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais la mort, c'est la conséquence du péché. La mort est entrée dans le monde, vous l'avez? Ah oui. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible. C'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pourquoi? La mort, c'est la conséquence du péché. La mort est entrée dans le monde pour lorsque Adam et Ève ont péché. Et la mort, c'est pas simplement la mort physique, mais c'est aussi la mort spirituelle. C'est un état de séparation d'avec Dieu, la mort. Et si on ne fait pas la paix avec Dieu dans cette vie, si on n'accepte pas le salut que Dieu nous donne, la mort physique, la mort spirituelle devient une mort éternelle lorsque la mort physique est enregistrée. C'est une séparation définitive, eh bien, d'avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia! En Jésus-Christ, parce que, eh bien, la mort n'a pas pu le retenir. Et je voudrais te dire ceci, c'est impossible que Jésus reste dans le tombeau. Parce que même si Jésus a donné sa vie pour nous, pour nos péchés, même si Jésus, eh bien, c'est son amour pour nous qui l'a conduit, eh bien, à la croix, il a pris ma place, il a pris ta place à la croix du calvaire, même s'il a donné sa vie, même si il est Dieu fait homme, il est venu dans une chair, dans un corps de chair, mais malgré tout cela, malgré son sacrifice, mais c'était impossible, eh bien, qu'il reste dans la mort parce que lui-même, même s'il a, et je lis mes notes, même s'il a supporté tes péchés, même s'il a supporté mes péchés, mais je voudrais te dire ceci, il n'y a jamais participé. Alléluia. Jésus n'a jamais péché. Il est parfait. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il n'y a en lui aucune ombre. Il n'y a aucune tache dans son caractère. Il n'y a aucune violence. Il n'y a aucune compromission. Il n'y a que la sainteté. Et c'est pour cela que lorsque la pierre est roulée, mais le Père est en train de déclarer ceci, mais je ne vois aucune trace de péché dans mon fils. Et s'il est mort, c'est pour les péchés des autres. C'est pas pour ses péchés. Il n'en a point et il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Et ce qui a d'étonnant, ce qui doit résonner comme un coup de tonnerre, c'est que ça s'est passé dans le corps d'un homme. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu s'est fait homme. Et c'est Dieu fait homme qui est ressuscité d'entre les morts. Et ça ouvre une porte pour tous ceux et celles qui croient en lui. Parce qu'il fait naître une postérité d'hommes et de femmes qui, plaçant leur confiance en lui-même, en Jésus, deviennent des enfants de Dieu et sur qui la mort, le jugement, n'a plus de pouvoir. Alléluia. Amen. Deuxième indice que je vois, c'est que les bandelettes sont à terre. Les bandelettes. On le voit ça. On est en Orient, hein. Donc on embaume à l'oriental, vous voyez, style un peu les momies, c'est ça, hein. On embaume, voilà. Et là, on a pris le temps de tout enlever, etc. Et Jésus est ressuscité. On voit ça dans Jean 11, lorsqu'il a la résurrection de Lazare. Jésus dit un moment, lorsqu'il est ressuscité, déliez-le. Mais Jésus ressuscité n'a pas besoin d'être délié. Mais il nous offre une pleine et entière liberté. Alléluia. Et lorsqu'on rencontre Jésus, et là, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, comme une enquête qu'on est en train de voir ensemble, eh bien, c'est de nous dire, mais en Jésus-Christ, j'ai la véritable liberté, alléluia. Il m'a affranchi de la loi du péché, de la loi de la mort, alléluia. Je suis devenu une nouvelle créature. L'Écriture nous dit également qu'il est mort pour tous ceux, eh bien, qui avaient peur de la mort. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ont vraiment peur de la mort et qui se disent « Je vis avec une accusation permanente par rapport à mon passé, par rapport à mon péché. Eh bien, c'est dans mon cœur. Ça génère, eh bien, dans ma vie, toutes sortes d'angoisses, etc. » Et je voudrais te dire ceci. Voici ce que la Bible nous dit. Et au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, il nous dit, puisque les enfants, et verset 14, participent au sang à la chair, c'est-à-dire nous, eh bien Jésus a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et je voudrais te dire ceci, tu n'as pas à craindre la mort, alléluia. Jésus est ressuscité, amen. Et on l'a chanté tout à l'heure, un jour je sais que mes yeux verront Jésus, alléluia. Et c'est d'ailleurs, eh bien, ce troisième point qui nous est donné lorsque nous voyons, eh bien, ce linge qui a été plié, bien rangé, mis, eh bien, quelque part là dans le sépulcre. Le frère Christian Blanc, la semaine dernière, nous a parlé de beaucoup de choses. Alors, je ne sais plus s'il l'a fait en prédication ou si c'était dans une conversation que nous avions eue avec lui. Mais il nous a dit que, à l'époque, donc ce sont des choses qu'on apprend par les historiens, les archéologues, lorsque un charpentier, un travailleur avait terminé son ouvrage, il prenait le linge avec lequel il avait travaillé pour s'essuyer, et il le pliait bien, et il le posait là, quelque part, sur le lieu du chantier, pour dire, j'ai terminé ma partie, voilà, c'est terminé. Et là, ça veut dire, j'ai achevé l'œuvre que le Père m'a donnée à faire. Tout est accompli. Alléluia, c'est terminé. Satan est vaincu. Il n'y a plus à y revenir en arrière. Tu peux penser ce que tu veux, c'est déjà fait. Tous nos péchés sont pardonnés. La faute est expiée. Si tu le demandes au Seigneur, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Concernant la réconciliation avec Dieu, c'est fait en Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par le sacrifice de la croix. Le poids de nos péchés est retombé sur lui afin que nous ayons la paix. Alléluia. Et nous avons cette liberté parce que la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous avons franchi. On l'a vu. Et maintenant, je suis libre, Seigneur, eh bien, de m'approcher de toi. Tout est accompli. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est l'œuvre de notre salut, c'est l'œuvre de Christ. Cependant, on peut voir toutes ces choses, on peut les considérer, on peut assister, parce que je suis convaincu que tout ce que je vous dis, pour les plus anciens d'entre nous, il n'y a rien de nouveau. Mais on peut savoir, on peut connaître toutes ces choses et voir sans Jésus, c'est mon deuxième point. Ouais. On peut être là. Et Pierre et Jean, vous avez remarqué, ils font une compète. Hein. Ils sont souvent en compétition, les deux, même s'ils sont ensemble. Mais ils courent, il y en a un qui va plus vite que l'autre, quoique après, Jean attend et ils entrent ensemble. Et ils ont conclu une chose, que Jésus est ressuscité. Et le texte, il est un peu bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il nous est dit ceci, c'est dans donc, Jean au chapitre 20e, et au verset, je le trouve, voilà, verset 7, verset 8, « L'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. » C'est bizarre. Et ils voient et ils croient, mais ils ne comprennent pas que Jésus ressuscité des morts selon les Écritures. Alors, moi, je vous donne mon opinion. Je pense que ces deux hommes qui étaient quand même habitués au ministère puissant de Jésus-Christ, ils savaient que Jésus était capable de purifier un lépreux, d'ouvrir les yeux d'un aveugle et même de ressusciter un mort. Lorsque vous lisez les évangiles, vous voyez des hommes et des femmes qui ressuscitent le fils de la veuve de Naïn. Vous vous souvenez ? Jésus le ressuscite. Bon, j'ai parlé de Lazare tout à l'heure. Jésus le ressuscite. La fille de Jaïrus, vous vous souvenez ? On se moque même de Jésus parce qu'il dit « elle dort ». En fait, il la ressuscite. Alléluia. Et nous voyons... Mais là, et eux, je suis convaincu, il dit « Jésus est ressuscité ». Voilà. C'est quelque chose d'étonnant, mais il n'y a rien d'étonnant qui concerne le Seigneur. Voici un miracle supplémentaire. Et ils rentrent chez eux. Et on peut être comme ça. On peut passer à côté du rendez-vous de sa vie en disant « j'ai entendu des choses étonnantes, ça m'a surpris, ça m'a même fait du bien ». Mais on n'y trouve aucune application directe dans sa vie. C'est comme si on était lié, et je vous ai dit tout à l'heure, Jésus n'était pas lié, mais lié, encerclé par toutes sortes de raisonnements qui nous empêchent d'entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Vous avez remarqué qu'ils sont dans le sépulcre, ils sont rentrés tous les deux. Ça m'a surpris, ça. Ils sont rentrés, ils ont considéré les choses, ils sont rentrés, ils ont tout constaté, Jésus est ressuscité, la pierre est roulée, les bandelettes sont à terre, le linge, il est plié dans un lieu à part, c'est bon, il est ressuscité. Allez, Jean, on rentre à la maison. Tu fais le café ? C'est bizarre, ça. C'est comme si, ils n'avaient pas réalisé, et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Écriture nous affirme, c'est selon les Écritures. Ce n'est pas un petit miracle. C'est pas même, il n'y a pas de petit miracle, mais ce n'est pas, entre guillemets, un simple miracle. C'est un coup de tonnerre qui ébranle tout l'univers. Satan est vaincu. La mort est vaincue. C'est-à-dire que si je meurs, si on me prend la vie, et on a des frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, et qui nous diront, mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Moi, si je meurs, et Paul le dira, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Faites-moi mourir, je sais où je vais. Et c'est une puissance, c'est une force pour les enfants de Dieu. Alléluia. Mais t'es sûr ? Écoute, je voudrais te dire ceci, mon salut, il repose pas sur mes œuvres. Je suis pas encore parfait, mais je marche avec le Seigneur. Et son sang me purifie de tout péché. Mais mon salut, est en Jésus-Christ. Il me change, il me transforme, il me renouvelle. Et je sais que, m'appuyant non pas sur ma justice, mais sur celle qui a été accomplie à la croix du calvaire, je suis sauvé. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Quelle liberté. Amen. Gloire au Seigneur. Mais on peut être lié dans ses raisonnements. Et dans la Bible, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des hommes, des femmes, peut-être même un frère, une sœur au milieu de nous, qui est lié par ses pensées, peut-être par ses échecs, peut-être par des traumatismes qui l'empêchent de vivre pleinement la vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et dans les Écritures, on voit qu'il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont dû briser ou couper ces liens Et c'est la parole de Dieu qui l'a faite, selon les Écritures. Et je voudrais te dire ceci tout simplement, mets ta foi non pas dans ce que ta tête pense, mais mets ta foi dans ce que la Bible déclare au sujet de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme. Moi, j'aime bien l'histoire de cette femme. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er. C'est l'histoire de Anne. Vous vous souvenez, Anne, cette femme qui est stérile. Il y a des promesses dans le peuple d'Israël. Il n'y aura parmi toi, chez toi, aucune femme qui avorte, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et elle, elle est stérile. Elle rencontre dans son propre foyer beaucoup de contradictions et de tristesse et de peine en raison de ça. Et la Bible nous dit qu'elle va se retrouver un jour dans le sanctuaire du Seigneur. Elle va prier de tout son cœur. Le sacrificateur Élie, il la comprend pas. Il pense qu'elle est ivre parce qu'elle parle simplement en remuant les lèvres. Et il lui dira, fais passer ton vin. Et elle dit, mais je suis pas ivre, mais je suis une femme qui parle en son cœur parce que je suis une femme qui souffre. Et là, il va lui dire ceci, que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. C'est une parole de Dieu qui brise quelque chose dans sa vie. Malgré mes échecs, malgré mes souffrances, malgré mon passé, mais tout est possible à celui qui croit. Et la Bible nous dit que son visage changea, elle ne fut plus la même. Elle crut dans cette parole et celle qui était stérile donna le monde à ce prophète Samuel, qui avant de devenir un prophète était un bébé quand même, et elle a donné naissance à d'autres garçons et filles. Mais je crois qu'il y a des choses qui doivent passer dans ta vie. J'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été une addiction. J'ai toujours réagi comme ça. Et puis, j'y arriverai jamais. Je ne peux pas nouer de relations. Je n'arrive pas à avancer avec le Seigneur. Je souffre toujours comme Anne. Cette même stérilité. Peut-être pas au niveau physique, mais c'est au niveau des projets de ta vie. Tu n'arrives pas à voir les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie parce que tu es retenu par toutes sortes de pensées. Et Jésus te dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. J'ai tout accompli, c'est pour toi. Amen. Il y a plusieurs cas. Je pense également, on a pris une dame, on va prendre un homme. Je pense à Gédéon, pour qui Dieu avait de grands projets. Faire de lui un serviteur de Dieu. Et lui, il dit, pourquoi il nous arrive tout ça? Je suis le plus petit dans ma famille, j'y arriverai jamais, l'ennemi gagne toujours sur nous, on a beau faire des projets, il ravage tout, etc. On n'a que nos yeux pour pleurer, je paraphrase. Mais le Seigneur ne lui parle pas comme ça. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Cette parole de Dieu... Mais comme dans mon cœur, lorsque j'étais adolescent, que je reçus l'appel de Dieu, je me sentais faible, fragile. Mais contre toutes les apparences, c'est une flamme que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Et je voudrais te dire ceci, le Seigneur est capable de briser tes raisonnements pour laisser place à la foi. Alléluia. Oui, le Seigneur veut te guérir. Oui, le Seigneur veut chasser cette dépression. Alléluia. Oui, c'est pour toi la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Pour que tu puisses entrer dans cette nouveauté de vie. Et je crois de tout mon cœur que nous avons besoin que nos raisonnements soient brisés dans le nom précieux de Jésus. Je crois que tout à l'heure, tu parlais de ça, David, dans les chants. Et nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. Je fais encore un rapide rappel concernant même l'établissement de notre foi en crise. Vous savez que tout a commencé au XVIe siècle, lorsque un certain Martin Luther, qui était persuadé qu'on pouvait être sauvé que par ses bonnes œuvres. Et il était tourmenté jour et nuit, parce qu'il s'apercevait que malgré toutes les œuvres bonnes qu'il faisait, il ne pouvait pas s'empêcher d'en faire de mauvaises, ne serait-ce qu'en pensée. Et il était effrayé quant à la pensée de l'enfer, parce que lui, c'était clair, Dieu est saint et moi je suis un pécheur. Il ne peut pas en être autrement. Sauf que ses raisonnements ont été brisés lorsque, en lisant l'Épître aux Romains, il a découvert que quelqu'un avait fait une œuvre de justice capable de nous libérer. C'est Jésus, Dieu fait homme,
et qu'on est justifié, on est rendu juste, simplement en disant, Seigneur, je crois que c'est toi qui as tout accompli à la croix. Alléluia. De là est née une révolution. Des hommes et des femmes par millions qui ont accepté Jésus et qui sont entrés dans une nouvelle vie heureuse. Alléluia. Amen. Alors, ça, c'est le regard voilà, qu'on a besoin d'avoir. Plutôt, c'était un regard, je vous ai dit, voir sans voir, sans voir Jésus. Et cependant, je reviens à Marie. Alors, eux, ils rentrent à la maison, Pierre et Jean. Marie reste. Je ne suis pas sûr que Marie, ça soit une grande théologienne. Je ne suis pas convaincu. Marie de Magdala, c'est une femme qui était possédée de 7 démons. Jésus l'a libérée. Marie de Magdala, il semble que ce soit quand même une femme de mauvaise vie, on va dire les choses. Une femme qui vivait dans la débauche, dans la prostitution. Et je ne suis pas convaincu que ce soit une experte en théologie, etc. Mais enfin, et d'abord, c'est une femme qui a découvert ce qu'elle n'aurait jamais pensé découvrir sur cette terre, quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est, qui lui pardonne ses péchés, qui la transforme. Elle a été libérée de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et lorsque Jésus meurt, elle le prend au sens mais littéral du terme. Elle n'a pas compris la croix. Elle n'a pas compris encore à ce niveau-là, j'allais dire, pourquoi Jésus est mort. Elle suivait Jésus parce qu'elle aimait le Seigneur. Elle a vu le Fils de Dieu, mais elle n'a pas compris toutes ces choses-là dans sa vie. Et il y a quelque chose à laquelle elle ne peut pas se résoudre, c'est Jésus n'est plus là. Mais comment je fais pour vivre maintenant ? Vous savez que pour nous qui marchons avec le Seigneur, nous avons pu passer parfois par des moments où nous n'avons plus senti la présence de Dieu. Ça ne vous est pas arrivé, ça ? Moi, ça m'est arrivé lorsque le Seigneur m'a demandé de lui obéir pour le servir. Et quand j'ai ressenti cet appel et qu'on a commencé à me dire, voilà, est-ce qu'il faut que tu fasses, etc. De nature rebelle. Le cœur de l'homme, il est rebelle. Hein. J'ai dit, écoute, Seigneur, non, je ne veux pas. Et le Seigneur, il y a eu un dialogue entre nous. Vous avez des dialogues avec le Seigneur ? Et c'est comme si le Seigneur me disait, écoute, tu es libre de faire ce que tu veux, moi aussi, mais moi, je ne peux pas te suivre sur ce chemin. Moi, il y a un chemin qui est là, c'est celui sur lequel je serai avec toi. Prends un autre chemin, je n'y serai pas. Et là, la présence du Seigneur qui s'en va. Mais c'est horrible. C'est horrible. Vous perdez la paix. Vous perdez la joie. Vous pouvez avoir tout. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir la voiture. Vous pouvez avoir vous pouvez tout avoir. Mais Jésus n'est pas là. Et je me mets à la place de Marie. Jésus n'est plus là. Elle est inconsolable. Et je voudrais qu'on puisse comprendre une chose. C'est que l'œuvre de Jésus, tout ce qu'il a accompli à la croix du calvaire, ça ne fonctionne pas sans Jésus. Je voudrais me faire comprendre. Vous faites venir, je ne sais pas moi, le chauffagiste, ou comment ça s'appelle, le plombier. Voilà, le plombier, il est là, il arrive, vous avez une panne à votre chauffe-eau, tac, 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 il répare tout ça, il s'en va, ça marche. Il n'a pas besoin d'être là pour que ça fonctionne. En fait, quand vous le voyez, c'est que ça ne fonctionne pas bien. C'est un peu comme le médecin, un peu comme toutes sortes de personnes. C'est leur présence montre qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Voilà, hein. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas voir le dentiste trop souvent, etc. etc. Voilà, hein. Voilà. Mais ça fonctionne sans Dieu. Tandis que là, c'est complètement différent. Tu ne peux pas dire dans ce culte, je saisis le pardon, je saisis la guérison, et au revoir Seigneur, à bientôt. La vie chrétienne, c'est une vie de communion avec le Seigneur. C'est l'œuvre, cette œuvre dont j'ai parlé, de victoire sur la mort, de pardon des péchés, de liberté, elle est associée à la personne même de Jésus. De telle façon qu'on ne peut rien vivre de tout ce que Jésus a accompli si on ne reçoit pas soi-même Jésus dans son cœur. Et c'est pour cela que
Jésus dira « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comment c'est possible? Jésus est monté au ciel, il est ressuscité d'entre les morts et il répand sur nous, en nous, son Esprit Saint. Et par son Esprit, il habite dans nos cœurs de telle sorte que nous devenons des temples du Saint-Esprit. Alléluia! Et l'Écriture, eh bien, nous montre que Marie, eh bien, avait bien compris ces choses-là. Je reviens juste un petit peu en arrière pour vous dire que finalement, je n'ai pas pu vivre bien longtemps avec cette angoisse de vivre sans Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, même si ce n'est pas ma volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté, mais je ne peux pas marcher sans toi, je ne peux pas vivre sans toi. Ben, je voudrais vous le dire, je le regrette pas parce que je suis là au milieu de vous. Alléluia, je suis marié. Voilà, ça ne me serait jamais arrivé si j'avais suivi. Je vous assure, j'ai 3 enfants. Gloire au Seigneur. On croit qu'on perd en disant oui au Seigneur. Alors, ben oui, mais merci, j'ai perdu mes faux raisonnements, voilà. Mais j'ai trouvé au centuple bien des choses. Alléluia, gloire à Dieu. Et Marie, elle est comme ça. Elle, ce dont elle souffre, malgré le fait qu'elle voit tout ce que les autres ont vu, mais elle souffre de l'absence de Jésus. Et il n'y a rien qui peut combler l'absence de Jésus. Elle voit 2 anges. Il y en a certains, ils voient un ange, ils sont tout heureux. Ils disent, ouais, c'est merveilleux, etc. Elle en voit 2. Alors, ça ne lui fait rien du tout. Hein. Mais c'est vous qui avez pris le corps de Jésus. Parfois, je trouve qu'il y a une forme de séduction, même dans le monde évangélique, où il suffit qu'il y ait une nouvelle doctrine à la mode et tout de suite ou un prédicateur un petit peu, voilà, tout ça, et tout de suite on oublie Jésus. C'est pas nouveau du reste, hein, dans l'épître aux Corinthiens, dans la deuxième, Paul dira, mais si on vous présente un autre Jésus, bien, un autre évangile, bien, vous l'acceptez fort bien. Il parle de recevoir un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, et c'est, il me semble, lié. Bah peut-être une absence de connaissance profonde de l'amour que Dieu nous porte. Cette Marie de Magdala, qui était rejetée, repoussée, femme de mauvaise vie, possédée, mais personne ne l'aimait. Il n'y en a qu'un seul qui l'a aimée, c'est Jésus. Il l'a libérée, mais elle ne peut pas vivre sans lui. Alléluia. Et que nous puissions dire, Seigneur, moi ce que je veux voir, c'est ce que je veux dans ma vie. C'est toi que je veux dans ma vie. Alléluia. Et on est en train de découvrir qu'on n'est pas dans une religion, mais on est dans une relation avec Dieu. Je voudrais dire ceci, je l'ai noté là sur mes notes. Faisons attention aux fausses résurrections, aux faux réveils, aux fausses conversions, à ces réveils émotionnels, parfois même psychiques. On a la chair de poule, etc. Et on se nourrit d'émotions. Mais une vraie rencontre avec Jésus-Christ, elle se manifeste par des fruits qui sont tangibles, une vie changée, transformée, alléluia, une relation avec Dieu. On ne va pas de réunion en réunion pour chercher je ne sais pas quoi, mais chaque jour, il y a un festin dans notre cœur. Jésus est là, alléluia, amen, gloire à Dieu. Vous avez remarqué qu'elle le cherche de tout son cœur, elle le cherche, elle va le trouver, parce que quand on cherche, on trouve. Et Jésus lui parle, mais elle ne le reconnaît pas. Alors ça, c'est un peu paradoxal. Hein. Elle cherche, elle le prend pour le jardinier. C'est étonnant. Hein. Ça m'a fait penser que dans la Bible, il y a des jardins. Il y a des jardins. Et d'une certaine manière, je me dis, elle ne s'est pas trop trompée. Parce que Jésus, c'est un peu comme un jardinier. Ben oui, vous vous souvenez, le jardin d'Éden. L'humanité a été rejetée, la présence de Dieu. Puis il y a ici un autre jardin. Il y a eu le jardin de Gethsémani et de la souffrance, le jardin où il a été mis au sépulcre. Et puis il y aura également le paradis, alléluia. Et ça nous parle d'un jardin. Littéralement, ça veut dire jardin. Et finalement, je termine. Vous êtes d'accord? Voilà, gloire à Dieu. Merci pour les amens. Mais ses yeux vont s'ouvrir sur ce que Jésus est, non pas par rapport à ce qu'elle voit, mais par rapport à ce qu'elle va entendre. Elle a vu plus de choses que nous, Marie. Elle a vu Jésus physiquement, elle a vu la pierre, elle a vu le sépulcre, elle a vu Pierre et Jean, etc. Voilà, elle a vu. Mais derrière elle, il y a une voix qui se fait entendre. Marie,
et tout change. Et elle comprend que c'est Jésus qui l'appelle. Et je voudrais vous dire, cette voix, elle peut se faire entendre dans ton cœur ce soir, ce matin, où tu sens que le Seigneur t'a appelé par ton nom. Peut-être pas par ton nom, là, voilà, mais au travers de ce qui s'est passé, au travers de ces chants, au travers de la pensée de l'esprit, au travers de certains éléments de la prédication, tu as compris que le Seigneur était en train de t'interpeller. Il t'a appelé. Et cela veut dire, mais je suis vivant et je t'appelle par ton nom. Et je suis ressuscité afin d'être ce médiateur entre le Père et toi, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et elle, lorsqu'elle retourne vers ses disciples, elle leur explique, j'ai vu, elle ne dit pas j'ai vu Jésus. Elle aurait pu le dire, elle ne serait pas trompée. Mais elle dit plus fort que ça. Elle dit, j'ai vu le Seigneur. Celui qui est venu pour accomplir cette œuvre merveilleuse dont je parlais tout à l'heure, qui révolutionne toute l'histoire de l'humanité, qui révolutionne ton histoire. Rien ne peut te séparer de Dieu parce qu'il est ressuscité, il est vivant, alléluia. Il règne à jamais et il se tient à la droite du Père et il intercède pour toi, alléluia. Et elle dit, mais ça y est, il a fait, il a triomphé. Tout est accompli. C'est maintenant pour toi, c'est devenu une réalité. Je voudrais dire à quelqu'un, eh bien ce matin, ne reste pas dans ton sépulcre. Jésus est dehors, alléluia. Il est vainqueur, il est ressuscité. Laisse le Saint-Esprit marquer dans ton cœur les mots de la foi par la parole de Dieu, afin que tu puisses dire, mais c'est aussi pour moi, tout est possible à celui qui croit. Et je voudrais terminer simplement en lisant eh bien, ce texte de la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8e. Il nous est dit, parlant eh bien, de Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et les questions se posent. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et je termine au verset 39, où je dis, rien, ni les anges, domination, mort, vie, etc. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur, il règne. Et je voudrais vous dire ceci ce soir, ce matin, depuis 2000 ans, le royaume de Dieu a commencé, alléluia. Et des hommes et des femmes y sont entrés et y vivent, c'est la vie éternelle, alléluia. Et je voudrais poser simplement cette question à quelqu'un au milieu de nous, peut-être un frère, une sœur, peut-être quelqu'un qui découvre l'évangile. Est-ce que tu vas rester dehors? Est-ce que tu vas rester avec toute cette connaissance? Ou est-ce que tu vas dire, ce matin, mais je veux vivre cette vie nouvelle. Seigneur, c'est pour moi aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Pour moi, c'est pour toi. Nous l'avons vécu. Alors, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur, si vous voulez, quelques instants. Et qu'on puisse ensemble eh bien, bénir le Seigneur, mais aussi dire, Seigneur, je veux entrer dans cette victoire. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, dans cette matinée pour ta bonté, ta grâce. Pour, Seigneur, cette réalité devant laquelle nous faisons face. Seigneur, c'est celle-ci, tu es vivant, tu es ressuscité, la mort a été vaincue. Combien d'hommes et de femmes vivent avec la honte, la peur, Seigneur, mon Dieu, et la conséquence de leur péché qui est la mort. Mais nous, Seigneur, en toi, nous avons cette consolation Seigneur, mais plus qu'une consolation, mais Seigneur, cette assurance, Seigneur, mais nous sommes à toi. Seigneur, rien ne pourra nous séparer de toi. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour celui, pour celle qui est peut-être prisonnier dans des raisonnements. Seigneur, qui s'est laissé enchaîner, Seigneur, par des contradictions, par des échecs, peut-être par des traumatismes également, qui pèsent sur sa vie, qui l'empêchent de voir, et Seigneur, ta gloire. Je te prie, Seigneur, afin que ce matin, dans le nom de Jésus, toutes ces pensées, par la puissance de ta parole, soient vaincues. Alléluia. Et que, Seigneur, plusieurs frères et sœurs soient déliés de ce raisonnement pour entrer pleinement dans ce que tu as préparé pour eux. Alléluia. Seigneur, nous proclamons ta victoire, Seigneur. Mon Dieu, nous proclamons ta victoire parce qu'elle est réelle, elle est authentique. Et non seulement cela, Seigneur Jésus, mais Seigneur, nous comprenons et peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'y revenir. Seigneur, mais je ne peux pas vivre sans toi. Et peut-être quelqu'un, Seigneur, depuis le début de cette réunion, Seigneur, dit ceci, mais je connais pertinemment toutes ces choses. Comment ça se fait que je ne ressens plus rien? Comment ça se fait que je me sens vide? Et Seigneur, tu nous as montré que, Seigneur, on peut connaître beaucoup de choses et, Seigneur, ton absence est là. Et ce n'est pas la connaissance qui fait ta présence. Et Seigneur, je te prie afin que ce matin, nous puissions te dire, et peut-être en particulier pour quelqu'un, dire Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, ce n'est pas que de connaissance dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que tu es une personne, tu es Jésus. J'ai besoin de toi. Alors tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, si ça te concerne, dis à Jésus, Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de renouer. Et s'il y a besoin de demander pardon, là, quelques secondes, tu lui demandes pardon. Peut-être pas pour un péché en particulier, mais peut-être pour un endurcissement de cœur. Peut-être pour une légèreté de caractère. Donc j'ai été léger, Seigneur, avec des choses qui sont précieuses. Et Seigneur, je veux les remettre à l'honneur dans ma vie. Je ne veux plus m'en séparer. Je veux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelques secondes sous le regard de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je suis persuadé que ce sont des secondes qui sont capables de changer le cours d'une vie. La marche avec le Seigneur. Alléluia. Quelques secondes encore sous le regard de Jésus. Et si certains voudraient que l'on prie pour eux, pour elles, comme s'il y avait comme ce jour de Pâques, un nouveau départ avec le Seigneur, en disant, mais je veux pas rester comme ça. Je veux vivre, Seigneur. Ben, levez votre main à votre place en disant, voilà, j'ai besoin de la prière. Ouais, il y a plusieurs qui lèvent leur main. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. On va prier le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Seigneur, ces frères et ces sœurs, Seigneur, qui ne veulent pas se laisser, Seigneur, happer par des raisonnements que le monde même est capable de leur insuffler, mais qui veulent vivre cette vie nouvelle, la vie à laquelle tu nous appelles. Seigneur, je te prie, Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, maintenant, d'ouvrir leur cœur. Et comme ta parole nous le dit, Seigneur, tu leur ouvris l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, que la foi soit suscitée dans leur cœur et qu'ils puissent, Seigneur, vivre tout ce que tu avais préparé pour eux. Et ils y sont entrés. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, ils placent leur confiance en toi. Ils disent, Seigneur, je veux vivre. Alors, Seigneur, je suis convaincu que ce matin, Seigneur, des victoires sont prises, comme Anne. Seigneur, parce qu'il y a une parole de Dieu qui a été libératrice, et ils placent leur foi. Seigneur, tu es vivant à jamais. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas là pour être, Seigneur, courbés. Seigneur, on l'a chanté, courbés par l'ennemi. Mais Seigneur, on est debout. Seigneur, parce que tu nous as affranchis, libérés, et on n'est même pas vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et merci, Seigneur, de donner ta victoire. Seigneur, peut-être à celui, celle qui est comme dans un sentiment dépressif. Seigneur, dans un abattement au niveau de ses pensées. Seigneur, cette situation, elle a assez duré maintenant. Et Seigneur, tu relèves. Alléluia. Et Seigneur, tu fais entrer dans une nouvelle dimension, celle de ta victoire. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen.